Ici, ce que je suis en train de dire, c'est pas qu'il faut pas être poli, gentil et qu'il faut absolument sortir notre cheval de bataille à chaque fois que quelqu'un nous frotte dans le mauvais sens du poil ou dit quelque chose qui nous blesse ou peu importe. Je dis juste ici que l'impératif d'agréabilité, c'est-à-dire ce trait de caractère qui fait que nous, en tant que femmes, on aime rechercher l'harmonie, on cherche à ce que tout le monde soit heureux, nous empêche bien souvent de poser des limites saines autour de la façon dont on opère nos entreprises, dont on opère en entreprise si on est un employé, et même parfois dans notre vie personnelle. Vous écoutez L'Ambition au féminin, épisode 88. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime L'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment vous allez aujourd'hui? Bon retour en force. Si vous êtes de retour de vacances, je n'ai pas pris de vacances cet été, mais c'est correct. Je travaillais fort sur Money Brand. Money Brand est enclenché et c'est comme si j'ouvrais la porte à une nouvelle version de mon entreprise. Donc pour moi, c'est comme si j'avais un peu accouché cet été et je suis prête pour ce qui s'en vient. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui a été extrêmement populaire quand je l'ai mentionné en stories Instagram. Puis je vais vous raconter un petit peu la petite histoire. C'est que, bon, vous le savez, je l'ai peut-être mentionné ici sur le podcast, mais je sais pas quand est-ce que vous allez écouter ça, à la recherche de le premier employé d'aime ta marque. Et c'est un gros move pour moi, c'est un gros moment important dans la vie de mon entreprise. Et j'ai mis un espèce d'appel à tous qui était un peu cryptique, qui disait dans le fond, qui cherchait des gens qui pensaient comme moi. J'ai appelé ça pour devenir mon partner in crime, ma partner in crime, dans l'aventure aime ta marque. Et puis je l'ai mis sur LinkedIn, je l'ai mis aussi dans mon infolettre et j'ai reçu des super belles candidatures à travers ça parce que bon, la stratégie c'était que je voulais d'abord et avant tout travailler avec des gens qui résonnaient avec qui j'étais, qui se sentaient interpellés par la mission d'Aime ta marque et aussi qui avaient envie de travailler avec moi, dans le fond avec moi, Tatiana, pas juste avec une description de poste. Donc c'est comme ça que j'ai fait un premier tri à travers les candidatures et une fois qu'on avait commencé à discuter un peu, ben là j'ai vu si c'était sérieux ou non cette requête de travailler avec moi et c'est à ce moment-là que j'envoyais l'offre d'emploi. Et parmi ces messages, dans le fond, ces demandes d'informations, j'ai eu un message très intéressant de la part d'un homme, et puis ce n'était pas le seul, il y a eu quelques hommes qui ont démontré de l'intérêt, et même quelqu'un qui a passé à travers le processus d'embauche pour le poste. Et tout avait bien commencé, tout semblait très brillant, et il semblait y avoir une belle connexion au niveau des valeurs, jusqu'au moment où cette personne commence à, je sais pas, me dire que, bon, l'offre écrite au féminin le dérangeait, et que, bon, ça s'est embarqué dans un peu la thérapie de cette personne-là, ou presque, où il me disait qu'il avait été traumatisé par des femmes qui détestaient les hommes, et puis le fait d'écrire au féminin, ça lui rappelait que peut-être son genre était pas le bienvenu, son identité était pas la bienvenue, alors que c'est écrit partout. Quand j'utilise le genre féminin avec Aime ta marque, c'est un, pour alléger le texte, mais deux, pour faire un statement quand même politique qui va en phase avec mes valeurs, avec ce que je représente, avec ce que Aime ta marque représente, et qui est d'aider les femmes, mais aussi les personnes qui se sentent non représentées dans les modèles de réussite et de succès, je dirais patriarcaux, ou les, tu sais, communs ou typiques, qu'elles ont leur place dans le processus de représentation. Et puis, je veux dire, j'ai un podcast qui s'appelle L'ambition féminin. J'ai jamais caché que j'étais une féministe. Donc, ça a été un gros red flag pour moi que, bon, que cette personne ne semblait pas savoir que c'était un peu ça que... Tu sais, pourquoi est-ce que tu m'as contactée si ça te dérange? Parce que c'est un petit peu le but de toute mon entreprise. Et bon, là, ensuite, j'ai essayé de désengager la conversation. C'était en message privé, naturellement. Mais la personne me revenait vers moi pour me demander, mais là, j'ai été vulnérable, je t'ai montré qui j'étais. Et si c'est pas ça un signe d'intelligence émotionnelle qui semble être ce que tu recherches chez les autres, ben veux-tu m'expliquer ce que c'est l'intelligence émotionnelle? Et aussi, après ça, bon, une fois que j'ai dit que ça me tentait pas de répondre à ça, ou du moins j'ai juste ignoré le message, la personne me revient avec environ une dizaine de paragraphes pour me parler de ses ressentis, de son expérience, etc., etc. Et c'est là que j'ai réalisé. Puis c'est pas la première fois que ça m'arrive, puis je suis sûre que ça vous est déjà probablement arrivé, mais vous l'avez peut-être pas identifié comme ça. Bon, que cette personne, premièrement, était probablement un narcissique, mais aussi que, en tant que femme, on a plusieurs situations professionnelles dans lesquelles on doit poser des limites inconfortables, des limites sur notre temps, des limites sur notre énergie, des limites sur notre attention, des limites sur nos valeurs, des limites sur la façon dont on désire se faire traiter. Et dans ce cas-là, à plusieurs reprises, j'ai mis des limites. Et dans cette situation-là, même, je suis une employeur potentielle. Et je trouvais ça complètement fou de considérer que c'est comme ça qu'on parlerait à quelqu'un, à un employeur. Tu sais, je veux dire, je me permettrais jamais de corriger l'offre d'emploi d'un employeur, à moins que ce soit justement pour y ajouter un peu d'inclusivité, mais je le dirais de façon très respectueuse. Et, tu sais, parce qu'on s'entend, la personne qui m'écrivait me disait que je devais savoir comment je me présentais puis ce que ça faisait sentir aux autres, alors que je suis une spécialiste en branding personnel. Donc je pense que je sais un peu le message que je veux envoyer, mais bref. Et quand j'ai parlé de ça sur Instagram, j'ai dit, ben justement, parce que j'ai eu certaines personnes qui me disaient en privé, oui, mais est-ce que tu sens pas que tu as la responsabilité de lui expliquer c'est quoi l'intelligence émotionnelle, de lui expliquer pourquoi c'est pas nécessairement bien de parler comme ça, bref. Et moi, de répondre, c'est pas à moi de faire l'éducation de la planète, c'est pas à moi non plus de prendre sur moi chaque personne qui a besoin de changer de lunettes ou de changer de perspective. C'est pas ma responsabilité de faire ces changements-là. Moi, j'ai des limites très claires sur mon énergie et sur comment je la déploie. Et c'est pas vrai que n'importe qui rentre dans mes messages privés a le droit à cette énergie-là ou mérite d'une certaine façon d'outrepasser mes limites. Parce que juste cette personne semble avoir démontré de l'intérêt pour mon entreprise. Alors voilà, aujourd'hui c'est un peu ça, c'était un grand préambule pour introduire le sujet d'aujourd'hui qui est poser ses limites, mettre ses limites quand on est une femme entrepreneur. Et je veux commencer cette conversation par parler d'un sujet que pas beaucoup de gens sont à l'aise à discuter quand c'est en lien avec les femmes. Et puis, j'avais enregistré un épisode avec Cathy Dumont, je vous mettrai le lien ici, où on parlait de leadership au féminin et est-ce que ça existe le leadership féminin et dadadi dadada. Et une des choses qui est ressortie de cette conversation-là, c'est que en psychologie, ou du moins en psychologie du travail, il existe quelque chose qui s'appelle le Big Five. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais en gros, c'est un modèle descriptif de la personnalité, je prends ça de Wikipédia, en 5 traits centraux, Ça a été développé par Lewis Goldberg en 1981, puis développé par Costa et McRae dans les années 87 à 92, pour la petite histoire. Mais les cinq traits fondamentaux, c'est d'un côté l'ouverture à l'expérience, la conscienciosité, l'extraversion, l'agréabilité et le névrosisme. Et il y a eu plusieurs recherches qui ont été faites comme quoi un des traits féminins par excellence, surtout en contexte professionnel, c'est cette fameuse agréabilité. Et que cette agréabilité nous empêche bien souvent d'obtenir des postes de direction, d'être considérés comme des leaders et d'être considérés aussi comme dans des postes d'expertise ou d'avancer professionnellement, de briser le plafond de verre. Il y a des recherches là-dessus, je vous invite à aller regarder. Moi, je lis beaucoup le Harvard Business Review, mais si vous avez juste à écrire « agreeableness women » ou « femmes et agréabilité » au travail, vous allez probablement trouver des articles qui démontrent ces recherches-là. Qu'est-ce que l'agréabilité selon la définition? Donc, tu sais, ces cinq traits-là, c'est des scores, là. C'est un spectre sur lequel on est. Et les personnes qui obtiennent un score élevé en agréabilité sont tolérantes, douces, gentilles, indulgentes, agréables, altruistes et obligeantes. Il est très important pour elles de bien s'entendre avec les autres. Elles ont des opinions flexibles et répugnent à critiquer ou à juger. D'un autre côté, celles dont l'agréabilité est faible sont sceptiques, têtues, querelleuses, intéressées et brusques. Alors, je ne vais pas rentrer plus loin dans cette définition-là, mais vous voyez déjà à quel point ce trait-là est codé féminin. Comme quoi, en tant que femme, bien souvent, on a cet impératif d'agréabilité-là qu'on a assimilé à travers nos expériences, à travers le temps, à travers ce qu'une femme devrait être et ce que les autres attendent de nous, surtout en contexte professionnel. Et je vous le dis, genre, ce n'est pas une... Moi, je l'ai expérimenté encore et encore. Je suis sûre que vous l'avez expérimenté encore. Ici, ce que je suis en train de dire, c'est pas qu'il faut pas être poli, gentil et qu'il faut absolument sortir notre cheval de bataille à chaque fois que quelqu'un nous frotte dans le mauvais sens du poil ou dit quelque chose qui nous blesse ou peu importe. Je dis juste ici que l'impératif d'agréabilité, c'est-à-dire ce trait de caractère qui fait que nous, en tant que femmes, on aime rechercher l'harmonie, on cherche à ce que tout le monde soit heureux, nous empêche bien souvent de poser des limites saines autour de la façon dont on opère nos entreprises, dont on opère en entreprise si on est un employé, et même parfois dans notre vie personnelle. Alors, je prends une pause ici parce que je pense que c'est important de penser à ce que je vous ai raconté, cette anecdote que je vous ai racontée à propos de cet homme qui est venu dans mes messages privés pour me parler de comment mon offre d'emploi l'avait offusqué, dans un certain sens. Et quel genre de réaction vous auriez probablement eu en lisant ceci? Puis moi, je vais vous parler de mon expérience, mais après ça, on va pouvoir décortiquer ça par rapport aux limites qu'on peut se poser une fois qu'on a reconnu qu'on va être souvent activé par cet impératif d'agréabilité. C'est-à-dire que notre premier réflexe, peut-être, si vous avez entendu mon anecdote, ça aurait été de dire « Ah, c'est vrai, j'aurais dû utiliser une écriture plus inclusive ou changer... envoyer une version au masculin pour cet homme, ou bref, tu sais, réfléchir à comment je suis en train de représenter le côté masculin. Bref, on serait mis en mode empathie pour voir comment est-ce qu'on peut régler le problème pour qu'il n'y ait pas de chicane. Et quand on se met dans un mode pas de chicane, bien souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remarcher sur les limites qu'on a imposées, on va remarcher sur les valeurs qu'on met de l'avant, pour pouvoir être la plus versatile, la plus flexible et la plus appréciée possible. Fait que, une chose qu'il faut se rappeler, c'est que... Ah, puis je trouvais ça super intéressant. Avant que je continue, je voulais juste dire, j'avais justement recherché un article, puis ça disait que ça parlait même pas de femmes. Là, ici, ça parlait d'hommes, que même les hommes qui sont sur le spectre d'agréabilité plus élevé vont faire moins d'argent que des hommes qui sont sur le spectre d'agréabilité plus bas. Donc, peut-être parce que justement ce trait-là est codé féminin, et féminin n'est pas codé succès ou leadership ou direction ou bref, argent, peu importe, ça fait que ces gens-là ont moins de promotion, gagnent moins, ont moins de responsabilités, et puis bien souvent vont être valorisé pour des postes qui sont moins game changers, je dirais. Bref, c'était juste un truc intéressant que je trouvais parce que c'est pas nécessairement seulement lié aux femmes. Alors ça, c'est pour l'impératif d'agréabilité. Maintenant, si on parle de limites un peu, parce que le problème avec l'agréabilité puis le lien avec les limites, c'est que souvent, on a l'impression que pour nous, limite, ça veut dire non. Ça veut dire bloquer l'accès. Ça veut dire être égoïste. Ça veut dire penser à soi avant tout, qui est l'inverse, justement, de l'agréabilité où on devrait être disponible psychologiquement et émotionnellement pour tous, on devrait s'assurer que tout le monde se sent bien, etc., etc. Mais une chose que je veux que vous désamorciez dans votre tête, c'est d'égaler limite avec méchanceté ou égoïsme. Puis là, je parle ici de limite quand vos clients vous payent pas, vos limites quand vos enfants ouvrent la porte et puis vous êtes en train de travailler et puis finalement, ben là, vous faites déranger et puis vous sortez de votre séance de travail profond. Ça veut dire des limites dans la façon dont les gens vous parlent, des limites dans la façon dont on décide, par exemple, de pas accepter qu'un rendez-vous soit en retard. Bref, les limites, c'est pas de la méchanceté, c'est pas de l'égoïsme. Les limites, c'est un respect de soi, de son expertise, mais aussi des autres. Et apprendre à mettre ses limites, c'est savoir respecter, justement, autant notre temps, notre expertise, qui on est, mais aussi les autres et baliser l'interaction qu'on va avoir avec eux de façon claire, précise, mais surtout de baliser l'accès qu'on a à nous. Puis en tant que leader, en tant qu'entrepreneur, en tant que femme ambitieuse, l'accès qu'on a à nous, à notre temps, à notre énergie, à notre cerveau, à notre expertise, c'est ça qui nous mène vers le haut. Dans le fond, c'est toutes ces choses-là que je viens de nommer qui nous mènent vers le haut. Et l'accès à ces choses devrait être extrêmement valorisé. Mais une chose à savoir, une chose à se rappeler aussi, c'est que c'est pas aux autres à respecter nos limites, c'est à nous de les protéger. C'est à nous de savoir comment les protéger. Les autres doivent connaître les limites, ils doivent en être informés, ils doivent connaître les conséquences de c'est quoi qui arrive si on outrepasse les limites. Mais surtout, il faut qu'ils sachent que si la limite, elle est franchie, il y aura une conséquence et qu'il n'y aura pas d'exception. Parce que c'est là la problématique quand on parle de contrat, on parle de soi, on parle de notre temps, c'est qu'on dit « bon, il va falloir que j'arrête d'accepter telle situation ou telle chose ». Sauf que là, la situation où la chose se produit, puis là, on fait une exception. Puis on dit « ah, ben oui, mais pour elle, je vais le faire. Ah, mais oui, mais j'avais peur de dire non. Ah, mais oui, mais là, gentille, elle me l'avait demandé de façon gentille ». Non, les limites, c'est les limites. Si on est capable de passer sur les limites, c'est parce qu'il n'y a pas de limites. J'aime ça faire l'expérience mentale WWMD. What would a man do? Qu'est-ce qu'un homme ferait à ma place? Et puis, dans cette situation dont je vous expliquais par rapport à l'offre d'emploi et puis le message que j'ai reçu, je me disais, wow! J'essayais vraiment de me mettre dans les souliers d'un homme qui ne se sent pas obligé d'être particulièrement gentil ou de mettre beaucoup de fluffy, genre de coussin autour de ce qu'elle avait à dire pour pas passer pour une marade méchante féministe, tu sais, qui haït les hommes. Qu'est-ce qu'un homme, il ferait dans une situation où un candidat vient lui parler de choses personnelles comme ça, qui n'ont rien à voir avec le poste en soi et qui semblent être aussi des red flags par rapport à l'objectif ultime de cette démarche qui est de trouver un employé. Après tout, on est dans un contexte professionnel et ici, je suis pas là pour me faire des amis nécessairement, je suis pas là pour pour régler les problèmes de relationnels de qui que ce soit là, ou pour brandir le flambeau des femmes et les je sais pas moi, genre montrer à quel point les femmes leaders doivent être meilleures que les hommes leaders. C'était pas ça pantoute là. Moi je me cherche un employé. Fait que la limite que moi je voulais mettre, c'est vraiment de dire ok, ben on est arrivé à mon red flag, tu l'as levé dans le fond, à ce moment-ci, la conversation s'arrête. Et puis, il n'y aura pas de suite à la conversation, il n'y aura pas d'échange particulier, on finit ça professionnellement, tu ne remplis pas les conditions que j'ai besoin, on passe à la prochaine étape. Maintenant, si tu viens et puis tu m'écris des messages, là, il va peut-être falloir que j'escalade de dire, OK, ben là, la prochaine fois, genre, tu sais, comme je pense qu'on s'est tout dit, la conversation peut arrêter ici, je te souhaite bonne route, mais là, si tu continues, ben là, c'est à ce moment-là que là, ben, je vais te bloquer ou je vais comme, tu sais, je vais signaler qu'il y a du spam ou des choses comme ça. Fait comment est-ce qu'on peut apprendre à mettre nos limites? Excusez-moi. Comment est-ce qu'on peut apprendre à mettre nos limites? Surtout quand on a l'impression qu'on est tout seul derrière notre écran. Et puis que, dans le fond, on doit se battre un peu contre les impératifs d'agréabilité puis les impératifs qu'on nous a toujours amenés à avoir pour nous-mêmes, mais qu'on doit, d'un autre côté, gérer une entreprise, devenir leader de notre vie, mais aussi parfois de d'autres personnes. Et la première étape, ben, c'est de connaître la valeur de notre temps. Donc ça, c'est d'établir aussi des guidelines ou des guides qui sont clairs et précis. Par exemple, j'avais une conversation où je lisais quelque chose sur un groupe Facebook puis disait « Bon, ben là, ça fait 20 minutes que j'attends mon rendez-vous. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous donnez une deuxième chance? Hein? » Avoir un guideline par rapport au retard, avoir un guideline par rapport à la façon dont on se fait adresser ou des choses comme ça, c'est super important que ce soit vraiment mis de l'avant dans le sens de dire, bon, les retards de 5 minutes et plus, l'appel est annulé, tu sais, ou il n'y aura pas genre de deuxième chance ou des choses comme ça. Et si possible, bon, on envoie un rappel quelques jours avant. Moi, je mets tout le temps en note dans mon rappel, tu sais, par respect pour nos agendas chargés. Si tu dois annuler le rendez-vous, tu le fais parce qu'il n'y aura pas une deuxième chance de reprendre ce rendez-vous-là. Tu sais, dans mes contrats, c'est très clair. Si tu dois annuler une séance, il faut que ce soit fait tant d'heures à l'avance. Sinon, on considère que la séance va avoir lieu. C'est sûr qu'après ça, si tu veux être fin ou gentil ou peu importe, tu peux dire « Écoute, je sais que c'est ça qui est écrit dans mon contrat, mais voici, je vais faire une exception à la règle. Par contre, t'sais, ça sera, t'sais, je pourrais pas en refaire une autre. » On n'est pas obligé d'être intransigeant, mais de vraiment mettre nos limites claires à travers des contrats, à travers des... par écrit, dans le fond, à travers des formules qui sont peut-être moins personnelles, mais qui sont... là pour protéger notre temps, ça va éclaircir beaucoup de choses pour tout le monde. Puis ça va nous empêcher à nous de devoir intervenir et de devoir prendre des décisions individuelles pour savoir, bon, ben lui, il était en retard de 7 minutes, est-ce que je le considère, tu sais, non. La limite, c'est la limite, c'est la même pour tout le monde, il y a quelque chose de vraiment égalitaire là-dedans. Mais pour ça, c'est sûr qu'il faut connaître la valeur de notre temps. Puis il faut se dire, tu sais, moi, une heure de mon temps, moi, 20 minutes de mon temps, ça vaut combien? Qu'est-ce que j'aurais pu être en train de faire pendant cette heure-là? Puis pourquoi est-ce que je suis en train de la protéger? Parce que c'est important qu'on réalise que notre énergie, notre temps, c'est des choses qu'on protège. Et puis c'est la même chose avec notre énergie émotionnelle, hein? Parce que souvent, les gens qui sont les plus demandants, les plus drainants et les limites auxquelles on a le plus de difficultés à poser, c'est quand les gens viennent chercher notre énergie. C'est-à-dire, « Ah, j'ai eu ce problème-là, je peux-tu t'en parler? Ça va juste prendre 5 minutes, puis là, on va être fin, on va être amis. » Mais là, ça peut être nos parents, ça peut être notre mère, ça peut être notre sœur, ça peut être un client aussi. Mais d'être capable de dire, « OK, je suis prête à t'écouter, mais en ce moment, j'ai pas la disponibilité mentale, et puis de toute façon, je suis au travail. » Et si tu as des requêtes comme ça, peut-être on peut prendre rendez-vous cet après-midi, ce soir, peu importe, dans lequel je vais être dans une meilleure prédisposition pour t'écouter. Pour des clients, c'est très important aussi d'être très clair sur les limites. Tu sais, moi, avec mes clients, je leur dis, écrivez-moi pas par Messenger pour me parler de problématiques qui doivent être parlées en coaching. On fait pas du coaching par Messenger. On fait pas du coaching par message privé. Nous, nos coachings, ils se font dans un portail. Je leur ai créé un portail client. Il y a des modes de communication qui sont intégrés là-dedans. Et puis, c'est à travers ça. C'est de vraiment mettre les règles du jeu. C'est sûr que si on met aucune règle du jeu, les gens, ils se sentent perdus, puis ils s'essayent, puis ils vont dire, bon, ben, je veux dire, elle me répond pas par ailleurs. Je vais essayer Messenger, Instagram. Mais si vous savez combien vaut votre temps, combien vaut votre énergie, c'est important de mettre en place les systèmes et les barèmes qui vont vous s'assurer de respecter et de guider les personnes à travers ces limites-là. Deuxième chose, c'est d'être à l'écoute de notre intuition. Donc, si vous sentez, tu sais, comme par exemple, moi, je parle beaucoup de red flags, mais les red flags, il y a souvent des yellow flags, des drapeaux jaunes qui sont venus avant les drapeaux rouges, qui nous disaient « Ah, je le sentais pas tant, mais je voulais être fine » ou « je voulais, tu sais, j'avais l'impression que je devais lui laisser l'embarras du choix » ou des choses comme ça. Si l'intuition, si le drapeau rouge jaune est levé, il faut se mettre très à l'écoute. Et il y a des choses parfois qu'on n'est pas capable d'identifier c'était quoi le drapeau jaune, mais en rétrospective... On va le déterminer. Puis souvent, bon, un drapeau jaune, ça peut être quelqu'un qui, dans un meeting, arrête pas de vous couper la parole. Ou vous avez un appel exploratoire avec lui, puis il parle seulement de lui, puis il pose aucune question sur vos services. Puis là, soudainement, ben ça va donner qu'il veut pas payer le prix. Ou qu'il est en train, genre, de réduire l'expertise que vous avez. Ou qu'une fois que vous avez accepté le contrat, ben, c'est quelqu'un qui est extrêmement bossy et qui vous voit plus comme un exécutant que comme un expert. Fait que ça peut être des drapeaux jaunes qui sont très, très importants à avoir identifiés dans les premiers contacts avec quelqu'un et qui font que on est dans un terrain dangereux où nos limites pourraient être, outrepassées. Donc, être à l'écoute de notre intuition, connaître la valeur de notre temps et établir des guides clairs et précis. Troisièmement, reconnaître notre tendance Mère Teresa, nos besoins de validation et, pour en revenir à nos travers d'agréabilité, voir à quel moment est-ce qu'ils sont activés. Est-ce que on a besoin d'avoir ce type de reconnaissance, de se sentir que on a réglé les problèmes de tout le monde et personne n'est fâché et tout ça. Parce que souvent, on a peur de fâcher les gens. Puis moi, je trouve ça drôle parce que c'est comme, dans quelle situation vraiment je vais fâcher quelqu'un, tu sais, où ça va être là... Tu sais, en général, si les gens se fâchent avec vous, c'est pas mal plus à propos d'eux qu'à propos de vous, tu sais. Puis je trouve ça dommage. Puis je sais, je le fais moi-même. Souvent, on va se tenir responsable de leurs émotions. Puis on va le prendre sur nous. Puis on va dire « Ah, ben là, qu'est-ce que je devrais faire pour que... » Mais se rappeler que les émotions des autres, c'est les leurs. Et prendre sur soi vraiment ce qui nous revient, mais pas plus. On n'a pas besoin de s'excuser à tout bout de champ. On n'a pas... Tu sais, moi, une chose qui me dérange vraiment beaucoup, c'est quand les gens ils me disent « Je m'excuse de te déranger. » Je suis comme « Ben là, mon temps, c'est moi qui le gère. C'est pas toi qui me dérange. Tu popes pas dans mon inbox ou dans mon messenger, puis tu me déranges. » Tu sais, si t'arrivais, genre, puis tu cognais à ma porte, puis que t'avais besoin de moi, ben là, tu sais, puis je savais pas que tu venais, là, peut-être, il y aurait un petit aspect de dérangement. Mais si j'ouvre mon inbox, si je regarde mes courriels, si je réponds, t'es pas en train de me déranger. C'est moi qui ai pris la responsabilité de te répondre, OK? Fait que t'es pas en train de me déranger. Mais reconnaître qu'on essaye tout le temps d'être dans cette agréabilité-là en tant que femme, souvent, peut-être ça vient chercher notre besoin de se sentir validée, de se sentir aimée, de se sentir appréciée et de vraiment questionner, justement, est-ce que je manifeste ce besoin-là de façon professionnelle et est-ce que ça a sa place? Est-ce que ça a sa place ou est-ce que je pourrais pas justement trouver une espèce de jardin en moi ou ailleurs ou dans un autre contexte où je peux aller chercher ces besoins de validation, où je peux aller remplir ces besoins de validation, mais qui n'implique pas de outrepasser mes limites professionnelles. Donc, nos travers d'agréabilité, tu sais, c'est souvent ancré dans notre sentiment de pas en faire assez, de pas être assez bien reconnu, de devoir se prouver, de devoir prouver quelque chose aux autres. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut, bon, régler soi-même avant tout, avant de pouvoir vraiment avoir la confiance de dire non à des contrats, dire non à des clients, ou justement, genre, désengager quand il y a des conversations dans lesquelles on veut pas nécessairement s'embarquer. Mais aussi d'être très clair dans nos noms. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens et beaucoup de femmes ont de la difficulté à assumer. Parce que, puis c'est pas juste notre faute, hein, parce que souvent nos noms ont été pris comme des peut-être. Mais de vraiment... Puis je sais à quel point c'est difficile de devoir dire non, non, non et non. Non, c'est non. Parce que c'est un... On le sent comme un manque de respect. Et c'en est un. Je vais pas dire le contraire. C'est en état, mais qui a été conditionné par la société. Disons-le comme ça. Mais de devoir répéter notre nom, c'est vraiment important. Puis de vraiment s'assurer que la personne comprend que c'est un non. Que c'est genre, je viens de mettre une limite, cette limite-là ne sera pas dépassée. Si tu veux continuer à pousser dans la limite, ben il va y avoir des conséquences. Puis la dernière chose, peut-être, pour apprendre à mettre nos limites en contexte professionnel quand on est une femme, ça serait de rester focus sur nos objectifs et nos priorités. Et ça revient un petit peu à ce que je disais par rapport à la valeur de notre temps, mais maintenir notre énergie pour ce qui compte vraiment, c'est ce qui va nous différencier de quelqu'un qui court pour atteindre, qui peine à atteindre ses résultats, qui est tout le temps genre à la course, ou quelqu'un qui est vraiment ancré dans ses actions, dans sa planification, dans ses stratégies, et qui sait pourquoi elle les fait. Et le fait d'être ancré sur nos objectifs et nos priorités, ça ne fait pas de nous des gens égoïstes, ça fait de nous des gens ambitieux, ça fait des businesswomen, ça fait des gens qui savent où elles s'en vont, et ça fait des gens aussi qui valorisent les gens qui sont dans leur équipe, les clients qui leur font confiance, et les gens qui nous supportent. Parce que, moi je le dis toujours, les gens qui ont le droit, ou du moins le privilège d'avoir accès à moi, c'est mes clients, puis je veux être là et disponible pour eux, pour elles. C'est ma famille, je veux être là et disponible pour eux, pour elles, parce que c'est ça qui compte pour moi. Et c'est moi-même, je veux être là et disponible pour moi-même, parce que c'est moi, au bout du compte, qui fait fonctionner tout ça. Tous les autres qui essayent de rentrer dans mon espace, qui essayent de venir tirer un peu de la chemise, je leur dois rien. Je leur dois techniquement rien. Ma communauté, elle me répond, elle me supporte, tu sais, je lui dois. Mais plus tu rentres dans la relation professionnelle avec moi, à travers les programmes, à travers les coachings, à travers, tu sais, en étant mon client, en interagissant avec mon contenu, plus je me sens en devoir de te donner de mon temps. Mais encore une fois, ce n'est pas tout le monde qui a accès à moi, et de protéger cet accès-là, c'est une façon pour moi de respecter les gens qui comptent vraiment pour moi. Puis là, quand je dis gens qui comptent vraiment pour moi, vous comprenez qu'en contexte professionnel, c'est mes clients. Alors, petit récapitulatif, reconnaître la valeur de notre temps et établir des guides clairs et précis, être à l'écoute de notre intuition, reconnaître notre tendance Mère Teresa, a.k.a. notre agréabilité, nos travers d'agréabilité, et aussi rester focus sur nos objectifs et nos priorités, et respecter à travers ça les gens qui se sont engagés envers nous en tant que clients, en tant que, tu sais, nos relations, nos amis, etc. Parce que c'est ça d'établir des limites saines. Et c'est comme ça qu'on va être capable de piloter toutes les responsabilités qu'on a en tant qu'entrepreneur, en tant que femme, mère de famille, épouse, copine, peu importe les chapeaux qu'on porte. C'est seulement en créant ces limites de disponibilité-là, psychologique, mentale, spirituelle, professionnelle, qu'on va être capable de se hisser au top, d'atteindre nos objectifs les plus ambitieux, et aussi de donner l'exemple de c'est quoi une femme leader, c'est quoi une femme ambitieuse, et comment est-ce qu'on peut réussir de façon très intègre sans se faire dicter par les besoins des égos du patriarcat. Je trouve que cette phrase est magnifique pour terminer cet épisode. Je serais vraiment curieuse d'entendre vos expériences, votre expérience à mettre des limites. Est-ce que c'est difficile pour vous? Est-ce qu'il y a des choses particulièrement? Est-ce que c'est en lien souvent avec l'argent? Est-ce que c'est en lien avec les relations interpersonnelles? Est-ce que c'est en lien avec votre famille? T'sais, c'est dans quelle sphère que vous avez le plus de difficultés à mettre des limites? Et est-ce qu'il y a peut-être une, deux ou trois stratégies dont j'ai parlé aujourd'hui ou des choses que j'ai mentionné, qui vous ont peut-être amené à reconsidérer certains espaces dans lesquels vous pourriez avoir un peu plus de circonspection pour votre disponibilité. J'ai pas parlé beaucoup de limites en termes d'interaction sociale sur les réseaux sociaux, mais pour moi, c'est un peu la même chose. Le web, ma présence sur le web, c'est moi qui la balise selon mes envies, selon mon humeur, selon mon énergie. Et encore une fois, tant qu'on réalise et on se rappelle qu'on est en contrôle et qu'on peut baliser ces outils-là, qu'on peut baliser ces espaces-là selon nos conditions, ben là, c'est à nous de poser les limites. Puis encore une fois, comme je disais, les limites sont pas mal plus pour nous-mêmes et s'assurer qu'on établit aussi les conséquences qu'il va y avoir si jamais les personne outrepasse ces limites-là. Alors voilà, ben j'espère que ça vous a été une belle réflexion. J'ai hâte de vous lire, de vous entendre, si ça vous fait réagir. N'hésitez pas à aller mettre un 5 étoiles sur l'ambition féminin, ça fait toujours plaisir et c'est une des meilleures façons de rendre le podcast découvrable. Je vous souhaite une super belle journée, une super belle semaine et on se dit à très bientôt!
Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!